Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières, c'est sur CFM Rhodes, une émission proposée par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Steve, qui, on le rappelle, est conseiller en investissement de patrimoine à ICA Finance dans le centre-ville de Rhodes.
Exactement.
Et Steve, quel sourire.
Toujours.
Bah, comme tout
il faut
monde.
Garder.
Oui,
hein.
C'est vrai. Quand ça va pas, tu dis que ça va peut-être aller mieux. Et puis là, j'ai envie de dire que ça va quand on regarde les marchés. Hein. J'ai envie de t'attaquer là-dessus.
Ah bah oui.
Aujourd'hui, tu nous avais annoncé des records sur le CAC il y a 15 jours, je crois. Bon bah ça y est, on y est. Il n'y a pas que le CAC.
Ah bah là,
qui
oui,
grimpe, hein.
on a dépassé les plus hauts là. Donc on les a dépassés hier, on les a redépassés encore aujourd'hui. Hein.
Mais alors qu'est-ce qui se passe? Tu nous expliquais que la bourse avait beaucoup monté ces dernières années parce qu'il y avait un flot d'argent sur les marchés. Bon, avec la hausse des taux, il y a moins d'argent sur les marchés, mais les gens, ils ont continuer d'avoir de l'argent à mettre en bourse. Donc d'où il sort cet argent?
Bah écoute, c'est surtout, je pense, de l'épargne qui était sur le côté, on va dire. Hein. Mm-hmm. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait que les opérateurs ont quelque chose d'optimiste.
Bah, si tu nous as dit ça il y a 15 jours.
Mais oui, mais tu te rappelles
moi,
qu'on discutait en fait.
Ouais.
Et c'est vraiment très intéressant qu'on discutait donc de toutes les possibilités économico-financières qui pourraient justifier d'une hausse des marchés. Et en réalité, alors, ça, c'est quelque chose de plus personnel. Moi, ce que j'aime regarder, c'est surtout des indicateurs plus techniques,
oui.
En particulier les bougies japonaises.
Les fameuses.
Parce que ça permet, et là, encore une fois, c'est vraiment de l'alchimie,
ouais.
Ça permet de donner ou d'avoir un sentiment sur l'état psychologique du marché.
L'appétit.
L'appétit, l'envie de prendre du risque, l'envie d'acheter. Je te rappelle qu'en fait, il y a toujours ces deux émotions majeures, en fait, entre lesquelles tout se joue.
Mm-hmm.
La peur et l'appât du gain.
Et oui.
Et là, en l'occurrence, on est plutôt en train de pencher de l'autre côté.
T'as pas une explication quand même, enfin un début d'explication, parce que le contexte mondial, j'avais déjà dit l'autre fois, bon, on voit pas de bonnes nouvelles nulle part, en quoi que ce soit. L'économie, on a de l'inflation, ça s'arrange peut-être, mais enfin, c'est pas dit, il y en a toujours. Il y a de la dette, il y a tout ce que tu veux, enfin, il y a rien qui va. Et les gens, ils sont quand même optimistes.
Mais oui, mais parce que rappelle-toi, David, on l'avait évoqué déjà dans une émission précédente. Le marché ou les marchés, c'est une énorme machine à traiter de l'information.
Ouais.
Donc, ça anticipe quelque part. Parce que dans l'information, il y a l'information présente, ce que tu décris.
Mmh.
Il y a l'information passée, d'où on vient.
Ouais.
Et il y a aussi l'information future.
Mmh. Qui dépend du passé et du
qui
présent,
dépend,
en général.
Ça, alors, mais ça, c'est vraiment un point intéressant. De quoi ça dépend? C'est point d'interrogation. Ça peut dépendre à un moment donné de l'information immédiatement passée, d'une information beaucoup plus lointaine, parce qu'on rappelait ce qui s'est passé en 2008 lors de la chute de Lehman Brothers.
Oui.
On a évoqué ça pendant Crédit Suisse. Si tu veux, donc là, on a une mémoire plutôt longue.
Mmh.
Après, ce qui se passe dans le momentum, j'ai envie de dire quotidien, on ne va pas aller chercher aussi loin que Crédit Suisse. Ça reste diffus, mais il y a d'autres choses. On regarde un petit peu devant.
D'accord.
C'est quasi impossible à prédire.
Ouais.
Mathématiquement parlant, on s'entend.
Oui.
Et c'est pour ça que je trouve... Mais alors, encore une fois, c'est très personnel, hein, parce que c'est plus du ressenti, mais je trouve que ça donne quand même une bonne idée de l'orientation des marchés.
D'accord. Donc là, pour toi, les records actuels en Europe, hein, notamment, parce que aux États-Unis, le Dow Jones, il n'a pas atteint les records, son record comme en France, là, ces jours-ci.
Non, ils sont dans une situation un petit peu différente, notamment du point de vue bancaire. Les banques européennes sont quand même relativement solides.
Donc, on l'espère.
Non, je pense que ça a été... Enfin, tout ce qui est d'ordre systémique, c'est quand même très, très, très encadré. Voilà. Donc là, c'est quand même... Puis on a vu la rapidité de réaction des autorités suisses quand ils ont décidé de faire la fusion entre UBS et Crédit Suisse.
Ouais.
Voilà, c'est quand même rassurant quelque part et ça a rassuré les marchés.
Ouais.
Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que oui, tant le gouvernement que la Fed est intervenu dans la faillite de SVB, sauf que Le paysage bancaire américain, quand tu regardes la part des banques régionales dans le financement de l'économie en général, c'est peut-être 50 à 60%.
Ah d'accord, ouais.
Donc s'il se passe quelque chose au niveau de ces petites banques, entre guillemets, ça pourrait avoir un impact très important sur la croissance américaine.
Nous, on n'en a plus des petites banques.
Elles ont toujours été rachetées, ou elles sont affiliées à des plus gros groupes. Il reste quand même localement des noms. Mais ça fait quand même partie, je pense, de plus gros groupes.
D'accord. Voilà. Alors, concernant l'investissement depuis le début de l'émission, hein, les chroniques financières sur CFM Rhodes, Steve, tu nous dis à chaque fois, dans le cadre de tes fonctions de conseiller en investissement patrimoine pour les épargnants, on vise la sécurité.
On vise la maîtrise du risque.
Voilà, la maîtrise du risque, tout à fait. Donc, on ne joue pas au fou, on est là pour ne pas perdre d'argent et puis coller au plus près à l'inflation. Bon, moyen et long terme. Là, j'ai envie de te dire, avec des records qui sont battus sur les marchés financiers. On n'a pas parlé du Bitcoin, il est pas loin de 30 000, il est remonté aussi. Enfin, bon,
Tout ça, en fait, sont des signes qui te montrent qu'il y a un appétit pour le risque. Parce que le Bitcoin, par essence, ça reste du virtuel, hein, oui. En l'occurrence, là, en tous les sens du terme.
Oui.
Le fait que les gens achètent quand même massivement, parce que pour repasser, en fait, rappelle-toi, on était tombé, je crois, même en dessous des 15 000.
Ouais, 15 000, ouais.
Là, on a touché des 30 000. Mm. Donc, c'est quand même significatif. Bah, il y a quand même une envie de prendre du risque. Il y a quand même une sorte d'optimisme. Et on le retrouve au niveau du Bitcoin comme on le retrouve au niveau des marchés.
Bon, alors du coup, toi, tu nous conseilles quoi? On laisse tomber, tu nous parlais beaucoup des assurances vie, qui est un produit sécuritaire. Enfin, qui maîtrise le risque, notamment pour les clients, que c'était intéressant de placer une partie de son argent là-dedans. On laisse tomber, on mise tout sur la bourse.
De toute façon, alors, et ça c'est vraiment intéressant. Et là, j'en profite pour faire un débrief,
oui,
si tu veux, entre ce que je faisais avant où on utilisait exclusivement des comptes titres,
des actions.
Alors, le compte titre, c'est le support qui va loger en fait les instruments financiers. Voilà. Alors, pourquoi que du compte titre avant? Parce que ce soit à Monaco ou au Moyen-Orient, l'aspect fiscal, autant te dire que c'était pas le paramètre le plus important.
C'est sûr.
Donc, on pouvait se concentrer vraiment sur ce qui fait vraiment le moteur de performance d'un portefeuille, c'est-à-dire l'allocation d'actifs.
Oui.
C'est ça qui va vraiment te déterminer ta croissance, tu vois, ou la performance. Donc, on pouvait se concentrer exclusivement là-dessus. Alors, ici, c'est un peu différent parce qu'il faut prendre en compte plusieurs autres aspects. La fiscalité s'en est un.
Ouais.
L'aspect civil aussi. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que tu fais un investissement avec l'idée de le transmettre à la génération future ou pas du tout? Ou est-ce que tu veux faire quelque chose, au contraire, pour toi, mais qui va te rapporter des revenus? Et en fonction de ce que veut faire le client, soit effectivement pour aller sur l'assurance vie, qui est un produit pour moi vraiment beaucoup plus patrimonial dans l'optique d'une transmission.
D'accord.
Que vraiment. D'épargnant, et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles je dis ça, ou bien tu vas sur du compte-titre qui certes va être impacté par de la fiscalité, mais qui t'offre une souplesse au niveau des instruments que tu peux acheter.
Ah, l'utilisation. Et moins bloqué l'argent.
Au niveau des frais, et puis tu vas pouvoir toucher des revenus si tu le souhaites.
Au niveau des frais, ils sont moins importants quand on prend un compte-titre plutôt qu'une assurance vie.
Oui,
on ne rend pas compte.
Ouais, justement, c'est ça qui est intéressant parce que lorsque tu passes par un compte-titre, on va laisser la fiscalité de côté 2 minutes.
D'accord.
Tu vas acheter des instruments financiers dont tu deviens propriétaire.
Ouais.
Ok. Donc la banque va te facturer des droits de garde, très bien, qui sont en général pas trop élevé. Hein. En général, ça peut tourner entre 0,30 ou 0,50%, donc 0,5% de l'encours du portefeuille.
Ok.
Bon, très bien. Et tu vas avoir des frais de transaction quand tu achètes ou tu vends. Voilà. Mmh. Mais en dehors de ça,
nada.
Il n'y a rien de plus.
Quand la banque, elle se rémunère au moment des transactions.
Ben oui. Et au droit de garde.
Au droit de garde, d'accord.
Que tu peux négocier. Et alors, nous, on travaille avec un certain nombre de contreparties, donc qui sont des sociétés de gestion de portefeuille, donc qui ont un volume conséquent et qui vont négocier directement avec les banques dépositaires pour réduire ces droits de garde au minimum.
Ouais.
Par exemple, quelqu'un qui fait en gestion discrétionnaire, il va payer 10 centimes de droits de garde. 0,10.
À 0,01.
Voilà, tu vois. Donc,
pour les banques, si on additionne tout. Mais enfin, ça, pour les banques, c'est pas intéressant comme.
C'est un business de volume.
Ah ouais, c'est ça, voilà. C'est un business de volume. Quoi,
alors, ils ont.
Parce que 0,01%, même de 1 milliard, ça fait pas des masses.
Ouais. Mais quand tu digitalises à fond, tu peux traiter de très gros volumes et tu peux offrir aussi des prix qui sont intéressants. C'est pas le plus rémunérateur, certainement, pour la banque, mais en tout cas, du point de vue du client, c'est intéressant.
Voilà. D'accord.
Alors, maintenant, si je fais la comparaison avec le contrat d'assurance vie français, comment ça marche?
Et là, attention, il y a une précision français.
Oui.
Donc, ça veut dire que.
C'est-à-dire qu'il y a des
cas où c'est pas pareil.
Quand on abordera le cas du contrat luxembourgeois, qui est une structure vraiment différente.
D'accord. Alors, on t'en a déjà un petit peu parlé
oui.
en l'émission précédente. D'accord, donc allons-y avec le français.
Alors, le français, comment ça marche? En fait, donc, vous souscrivez un contrat d'assurance à la base. Et ça, c'est déjà une première chose à bien comprendre. Vous n'êtes propriétaire...
De rien.
De rien. C'est un contrat d'assurance, vous payez une prime à l'assureur.
Comme pour une bagnole, une maison.
Exactement.
On est propriétaire de rien quand on prend
on
l'assurance.
On est propriétaire de rien. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que comment fonctionne l'assureur? C'est-à-dire que l'assureur, il a un certain nombre de coûts à gérer, notamment des coûts de distribution de ses produits.
Distribution, c'est-à-dire, ben, c'est-à-dire de le faire connaître à moi et de le vendre.
Voilà.
C'est ça, okay.
Donc, comment il va faire? Eh bien, il va vous dire la chose suivante. Bon, très bien, vous avez payé la prime. On va acheter, donc l'assureur va acheter en son nom un certain nombre de titres. Ça peut être des OPCVM comme des titres vifs.
Ouais.
Alors, au niveau des OPCVM, il y a plusieurs classes d'actions. Il y a notamment des classes d'actions institutionnelles qui sont chargées avec des frais très compressés parce que sont disponibles uniquement pour les institutions, donc qui viennent avec des gros tickets.
Ouais, enfin, quand tu dis gros tickets, c'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent, ouais, voilà. Okay. Et puis à côté de ça, tu as des classes d'actions qu'on appelle retail, qui sont pour tout un chacun, donc des gens qui ne sont pas institutionnels et qui là sont beaucoup plus chargés en frais.
D'accord, mais ça peut être la même action, ça peut être une
c'est le même
ça
fond.
Peut être le même Air Liquide à droite et à gauche.
C'est le même fond.
D'accord, ok.
Ok. Ouais. Que fait l'assureur en fait? L'assureur, très grosse institution, il va acheter la classe institutionnelle, très peu chargée en frais, mais
je te vois venir.
Mais il va facturer en fait au client qui a versé sa prime et qui va acheter le même fond.
Et oui.
Donc il n'en achète rien, mais il veut au moins on va dire, à l'exposition, à la performance
un droit
du fonds,
sur le, ouais, d'accord.
Eh ben, il va lui dire, écoutez, monsieur le client, dans ce qu'on appelle les unités de compte, qui ne sont que des représentations, en fait, de la performance du fonds sous-jacent, on va vous facturer des frais de gestion de l'unité de compte. Et là, il va se caler sur les tranches retail.
Ouais, le prix du détail, quoi.
Exactement.
Il achète en gros et il revend... Au prix de
mais
du
c'est
détail.
Super.
Bah oui, mais alors, bah oui, c'est super. Eh, mais j'ai envie de te dire, Steve, bon, moi qui suis pourtant pas banquier d'où que ce soit, j'ai envie de te dire, bon, bah ils font comme tout le monde. Hein.
Oui, la différence.
Le moindre commerce du centre-ville, et il se prend même plus de marge que le banquier à la limite.
Mais c'est ça. Et la différence, elle va servir à l'assureur pour payer ses distributeurs.
Bah oui.
C'est-à-dire que quand nous, par exemple, on vend un contrat d'assurance vie, hein, on va normalement recevoir en fait une rétrocession sur l'encours. Et cette rétrocession, pour partie, elle provient de cette différence.
Ah ouais, pour partie, c'est pas
pour
tu récupérer pas tout.
Non, bah non,
non.
D'accord. Bon, mais c'est comme ça que ça marche.
Ouais,
bon.
Okay. Alors, mais moi, je vois pas le mal.
Mais non, mais dans l'absolu...
Quand t'achètes quelque chose, tu sais très bien que le prix que tu payes, il a rien à voir avec le prix, souvent, qui a été payé par la personne qui te le vend.
Mais oui. Alors, où ça commence à pêcher un petit peu, si tu veux, c'est que lorsque, après toi, tu investis, tu vas ouvrir un contrat d'assurance vie, tu vas verser la prime parce que tu veux te dire, ok, bon, maintenant, il faut que je place, je suis en train de placer mon argent pour que ça rapporte.
Ouais.
Et puis, ça a intérêt à rapporter autre chose que ce que tu aurais pu avoir en laissant l'argent à la banque.
Ouais.
Sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt.
Ouais, oui.
Le problème, c'est que tous ces frais additionnés, sur du moyen long terme, ça t'attaque une performance de manière très agressive. C'est-à-dire que quand tu soustrais de la performance du fonds sous-jacent, imaginons que tu achètes qu'un seul fonds, des frais de gestion du fonds, déjà, donc qui te sont refacturés sous forme de frais d'unité de compte.
Et c'est tous les ans les frais? Ou c'est une fois pour toutes?
Ah ouais. Non, c'est tous les ans.
Ouais.
À côté de ça, l'assureur va te facturer des frais de gestion du contrat. Donc, tu as déjà deux couches de frais de gestion, plus éventuellement des droits d'entrée, des droits d'arbitrage, dans quelques cas, des droits de sortie.
Oh,
je veux dire, il faut faire attention à ces frais.
Ouais, faut tout bien compter.
Parce
à
que
fin,
si tu veux, après, alors, quand les marchés montent, ça passe plus ou moins comme une lettre à la poste. Parce que deuxième chose, les frais que tu vas payer, on va pas te dire, bah, on va pas t'envoyer une facture en disant vous me devez tant.
Ouais.
On va te les piquer sous forme d'unité de compte.
Ouais, ouais.
Donc imagine, tu avais investi 1 000 euros, ça se transforme en 1 000 unités de compte d'un fonds XYZ.
Ouais.
si les marchés ne font strictement rien à la fin de l'année, tu te dis, ben, j'ai mis 1000, je suis à 1000. Et non.
Et non, on prend les frais quand même.
Et oui. Donc, tu avais 1000 unités de compte et tu te retrouves à 995. Et il ne s'est rien passé. Donc, tu es un moins-value.
Alors, comment. Tiens, juste une petite parenthèse. Après, on va continuer sur les luxembourgeois, là, parce qu'apparemment, tu as une piste. Ce serait peut-être mieux. Là, je reviens au placement, à l'épargne. Là, on est sur le livret. Moi, j'ai un livret, il n'y a pas beaucoup de sous, mais enfin bon. Donc, le livrage, c'est à peu près, on est pas loin de. On est quoi? Pas loin de 3% maintenant.
Oui, donc, c'est ça.
Bon, aujourd'hui, toi qui places une assurance vie auprès d'un client, il faut que cette assurance vie, tu peux pas, je ne vois pas comment tu peux la placer si ça rapporte moins ou l'équivalent d'un livret A.
Alors, déjà, sur le livret A, tu es plafonné.
Ouais, tu as raison. Ouais, si j'ai 2 millions d'euros, ça ira pas.
Tu vas avoir du mal.
Ouais,
tu vas avoir du mal.
Ah ouais, ça peut être juste ça qui fait que.
Non, parce que normalement, et c'est là où j'en reviens à l'allocation d'actifs, l'allocation d'actifs, si c'est bien fait, tu devrais pouvoir sortir avec plus de 3%. Tu vois l'idée. Mais attention, c'est sur du moyen long terme.
Ouais.
Et ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une discipline de faire quand on investit. Hein, parce que sinon, on a peu de chances de réaliser en fait, le rendement cible. Si quelqu'un, et c'est là où on en a parlé déjà, mais la notion de volatilité a toute son importance pour le risque, et la maîtrise du risque, c'est la clé. C'est-à-dire que si tu me dis, bah voilà, moi je vais investir, je sais pas, 300 000 euros, mais attention, j'en ai besoin dans 3 mois. C'est un peu comme de la transformation. Nous, on va viser une structure, une allocation d'actifs pour du moyen long terme, on va dire 10 ans ou plus. Si dans 6 mois, tu ressors, moi, j'ai pas pu faire mon job.
Ouais, bien sûr,
même si le portefeuille est très, très bien structuré. Tu comprends? Ça, c'est un risque parce que tu peux très bien sortir avec une plus-value si tu as de la chance. Tu peux sortir avec une moins-value si tu as moins de chance. Mais là, le résultat en fait, de l'investissement, il dépend de la chance exclusivement.
Tu vois? Bien sûr.
Et puis, deuxièmement, si tu gères mal la pression induite par la volatilité, c'est-à-dire que tu vois la valeur de ton portefeuille baisser, tu vas te dire « oulala, je vais aller à la cave », comme on dit, et ben tu prends les mauvaises décisions et tu cristallises, alors qu'il faudrait avoir une discipline en disant « cet argent, je n'en ai pas besoin, je sais que les marchés sont amenés à baisser et à monter, c'est la nature en fait, de l'investissement, donc je reste investi ». Ceux qui, par exemple, sont restés investis en 2022 ont pu récupérer toute la hausse des marchés depuis la fin de l'année dernière jusqu'à maintenant.
D'accord, ouais.
On est au plus haut quand même sur le CAC.
On est au plus haut. Mais alors toi, tu sais, il y a une expression qui dit, qui vient peut-être pas des marchés financiers, mais parfois, il vaut mieux savoir perdre un bras que je sais pas quoi.
Il vaut mieux se couper la main qu'un bras.
Voilà. Bon, mais alors ça, c'est pas valable. Quand on investit sur... C'est valable quand on est trader, mais pas quand on est dans l'épargne, du placement, d'argent.
Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Parce que quand tu fais du trading, en fait, tu cherches davantage à surfer la vague des marchés. Donc là, c'est là où il faut être très, très humble parce que tu prends une position en fonction de critères qui te sont propres. Mais tu dois admettre que peut-être que tu t'es trompé. Peut-être que tu es trop tôt, peut-être que tu es trop tard. Et là, il ne faut pas hésiter, effectivement, à cristalliser une perte pour éviter d'avoir en cristallisé une bien plus grosse si tu attends. Parce que le risque, c'est quoi? Et ça, je l'ai vu mais des milliers de fois dans ma carrière. Te dire, non, mais j'ai raison, le marché va se retourner. T'attends, et résultat des courses... Alors, si t'es dans des instruments cash, comme on dit, bah, tant pis, t'attends, tu... Voilà. Si t'es dans des instruments où t'as mis juste une prime, simplement une portion de la valeur de l'instrument, et que ta prime est complètement absorbée par la baisse... La banque va venir te taper à dire, il faut remettre au pot.
Ah oui.
Et là, ça coûte beaucoup plus cher.
Alors, peut-être que la solution, enfin, en tout cas, il y a peut-être une possibilité du côté du Luxembourg.
Ah, mais c'est intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Ah ouais, parce que tu vois, quand on parle de finance, de banque, d'argent, quand on met le mot Luxembourg à côté,
ça fait banque privée, David. Ça fait banque privée.
Non, ça, j'irais même pareil. J'irais même plus loin que ça. Ça fait même histoire louche, malhonnêteté.
Mais pas du tout. C'est transparent.
Bon, d'accord. T'es sûr?
Non, ça fait banque privée et il y a quand même une raison derrière. C'est parce que la structure d'un contrat luxembourgeois est fondamentalement différente de celle d'un contrat français.
Bon, mais pourquoi?
Alors, rappelle-toi, dans le cas d'un contrat français, tu ne possèdes rien.
Ouais.
C'est la compagnie, en fait, tout ce que la compagnie achète est sur son bilan. Elle le possède.
C'est
elle.
À elle.
Voilà. Il n'y a pas de différenciation entre les fonds de la compagnie et les fonds, en fait, des épargnants.
Oui.
Voilà. Bon, très bien. Au Luxembourg, ils ne font pas du tout le même système. Au Luxembourg, ce que la compagnie, La compagnie sert juste d'intermédiaire, d'enveloppe. Elle te procure l'enveloppe légale et fiscale.
D'accord.
Okay. Mais elle va ouvrir un compte dans une banque que tu choisis, dépositaire, oui, avec laquelle elle travaille, où elle va loger la prime. Mm-hmm. Donc là, déjà, tu sors du bilan de la compagnie.
D'accord.
Tu vois. Mm-hmm. Et ensuite, là, tu vas, en fait, ça s'arrête d'ailleurs là, parce que normalement, il y a un troisième acteur qui vient dans la boucle, c'est la société de gestion avec laquelle tu travailles, qui va gérer ton portefeuille. La société de gestion va se rapprocher de la banque dépositaire, mmh, et va dire, voilà, moi, la compagnie d'assurance... Toi, en tant que client, tu disparais, tu n'y es plus là. Mmh. Mmh. La compagnie d'assurance qui a ouvert un compte en son nom a déposé tant sur ce compte-là et m'a donné mandat pour gérer ce compte. Mmh. La société de gestion va acheter et vendre des titres qui sont logés dans un compte bancaire dédié, séparé du bilan.
D'accord.
Et donc, logiquement, tous ces frais de gestion d'unité de compte, etc., etc., il n'y en a plus.
Ouais, mais ils n'en rajoutent pas avec ce que tu me dis, la société de gestion, les gens, il faut qu'ils communiquent entre eux. On ouvre un compte à droite, on ouvre un truc à gauche.
Oui, mais sauf
ça, ça revient quand même moins cher que.
Sauf que rappelle-toi ce qu'on disait sur les comptes titres, mmh, au départ. Les frais bancaires,
oui.
Ils sont réduits. Mmh. Alors effectivement, tu dois payer un gestionnaire pour ça. Tu n'es pas obligé, hein. Mais c'est quand même bien mieux, en tout cas, de payer une société de gestion. Que tu peux faire aussi dans un cadre d'un contrat d'assurance vie français. Mmh. Tu peux, si tu veux, mais bon, là aussi, il faut un minimum. Mais je pense que de mon expérience, en tout cas dans ce domaine-là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir un contrat luxembourgeois parce que tu as toute une strate de frais en moins.
Mais alors, point de vue, tu sais, peur, pour revenir à tes valeurs, l'appétit et la peur. Bon, la peur, moi je dis, bon ok, Luxembourg, c'est pas l'autre bout du monde.
Rappelle-toi les deux émotions.
Oui, moi je suis surtout sur la peur, tu vois. La peur, bon ok, Luxembourg, c'est pas à l'autre bout du monde, avec des gens qui parlent des langues trop loin. Bon, on a l'impression de connaître, mais enfin bon, Luxembourg, moi j'aurais peur.
Mais c'est très sécurisé,
ouais,
parce que si tu veux...
Tout est
baqué.
D'accord.
Si tu veux... T'as la banque, tu peux choisir ta banque. Mmh. En l'occurrence, tu peux même avoir une banque qui n'est pas au Luxembourg, puisque c'est le contrat, c'est l'enveloppe légale et juridique qui est au Luxembourg et la gestion. Mais après, la banque, elle peut être ailleurs.
Okay.
Ouais. Donc, la banque en elle-même, pas plus d'inquiétude à avoir que ça, parce qu'elle est régulée par les autorités locales, la Banque Centrale Européenne, etc. Donc, c'est quand même bien encadré.
Ouais.
C'est pas un souci. Mmh. Même si la société luxembourgeoise fait faillite, toi, en tant que, on va dire, titulaire du
français,
contrat, non, tu as ton contrat d'assurance vie, tu as un droit de premier ordre, en fait, sur les fonds qui sont déposés à la banque.
Ouais, enfin, dans ces cas-là, d'abord, ils payent l'État, après, ils payent les gros
financiers. Eh bien non, là, tu as un droit particulier.
Ah bon, d'accord.
Et oui, c'est ça qui est intéressant. Okay. Tu as un droit vraiment de premier ordre.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Donc, tu peux faire actionner ton droit et tu vas récupérer la valeur actuelle de ton investissement.
Et alors, en termes de gains, l'intérêt par rapport
C'est surtout, en fait, c'est surtout que tu vas probablement avoir beaucoup moins de frais, si tu fais attention. Mmh. Deuxième exemple.
Et en proportion, l'écart entre une assurance vie française moyenne et cette assurance vie au Luxembourg, le delta...
Je pense que tu es entre 1 et 1,5% annuel de frais en moins.
Ouais, donc au lieu de 3.
Au lieu de 3.
Ouais, donc si c'est énorme. Enfin,
quand tu commences à avoir des sommes conséquentes, je te garantis que sur un moyen terme, ça fait beaucoup de différence.
Tous les ans, oui.
Et oui. Et donc, ce qui est intéressant en réalité, quand tu regardes aussi, et ça c'est quelque chose de... Vraiment, on parlait des titres vifs tout à l'heure. Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie français, les titres vifs sont traités comme des unités de compte puisque toi, tu ne possèdes rien. Ok, et donc l'assureur va appliquer en fait une sorte de tarif standard en termes de frais d'unité de compte comme si tu avais un OPCVM. On va appliquer à un titre L'Oréal, Accor, etc. 1,5% de frais d'unité de compte, ouais. Et du coup ça te revient extrêmement cher d'avoir les titres, alors que quand tu es dans un contrat luxembourgeois et que les fonds sont déposés dans une banque, mais tu n'as rien à appliquer, tu vas payer des frais de gestion si ta compagnie de gestion de portefeuille décide d'acheter des titres d'OPCVM, normal. Mais si elle décide d'acheter des titres vifs, tu ne paieras rien du tout.
Mmh. Alors, quand même, pareil, moi j'aime bien les proverbes ou les expressions, ça mérite d'être simple. Toute médaille a son revers. Donc le revers du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est quoi?
C'est le ticket d'entrée.
Ah ouais, d'accord, moi je pourrais pas que mon pauvre livret A, je les intéresserais.
Non, mais je pense que pour que ça fasse vraiment sens, il faut être... allez, bon, ça c'est mon opinion à moi.
Ouais.
Mais entre 300 et 400 000 euros, tu peux démarrer.
D'accord, ouais, donc bon, c'est complètement hors de mes... Je m'arrive pas de mes possibilités, mais oui, c'est pas non plus être joueur de football professionnel multimillionnaire.
Non, d'accord, c'est pas... C'est quelque chose voilà, qui... tu peux démarrer à ce niveau-là.
D'accord.
Pour avoir quelque chose de pas mal. L'idée, c'est quoi? C'est que quand même, si tu arrives à avoir un maximum de titres vifs dans ton contrat d'assurance vie luxembourgeois, bah, tu peux comprimer tes frais. Ouais. Plus tu comprimes tes frais, plus tes chances d'avoir une performance nette dans 5, 10 ou 15 ans, plus intéressantes que quelque chose d'équivalent en France, elles sont importantes. Ouais. C'est ça, c'est vraiment la gestion des frais et du risque.
Oui, bien sûr, d'accord. Ouais, donc là, on parle beaucoup dans l'investissement, dans le placement d'argent. Il y a la performance de ce sur quoi on investit qui est importante, ce qui est attendu. Mais en fait, ce que je retiens, moi, ce qui ressort, c'est que le plus important, finalement, la plus grosse part, c'est 1) la fiscalité, 2) la construction du produit, la législation, quoi. C'est un peu ça.
Ben, c'est surtout le paramètre déterminant, c'est l'allocation d'actifs. Voilà, c'est ça en fait la structure de ton portefeuille.
Et alors ces contrats d'assurance, bon alors Luxembourg est un pays qui s'est beaucoup spécialisé dans les produits financiers depuis longtemps, donc bon, mais c'est les seuls à proposer ce type de produit là ou c'est les spécialistes?
C'est vraiment les spécialistes, en tout cas en Europe, ouais. Après pour les autres marchés je connais pas.
D'accord, donc toi tu t'es pris une assurance vie au Luxembourg?
Non, moi je suis un garçon de compte-titres.
Ah, ah oui, c'est pour ça que tu as encore plus le sourire aujourd'hui qu'à la semaine dernière. Bon, très bien, on se retrouve la semaine prochaine si tu veux bien, Steve.
Mais avec grand plaisir, David.
Pour une nouvelle émission, j'aimerais bien, on va y arriver, qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle.
Ah oui, il faut qu'on en parle. ChatGPT
4. Est-ce que tu as déjà essayé de demander à ChatGPT comment il fallait investir?
Non, pas encore. Ça, c'est effectivement un test tout à fait intéressant.
Ouais, ça va tester. Il faut bien mettre plein de précisions, sinon il dira vous faites comme vous voulez.
Mais c'est ça.
Ok. Bon, on verra peut-être ça la semaine prochaine. Merci, Steve.
Merci, David.